Je d'abord vous remercier d'être là avec ce beau soleil que vous avez à Bordeaux.
Moi, je veux bien vous remercier aussi et remercier nos amis de la librairie qui ont concocté cette rencontre. Et puis, si Patrick Evran nous remercie de lui prêter le soleil de Bordeaux, on peut le remercier de nous prêter sa présence pour une présentation et un débat. C'est très important de garder un grand moment pour débattre ensemble de ce livre qui vient de sortir sur les pères encombrants. On a écrit beaucoup de choses sur les mères terribles, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt très bien de s'occuper des pères encombrants. Vous parlez un petit peu de votre présentation, comment voulez-vous faire?
Bon, je peux dire deux mots du livre et puis surtout vous allez me poser des questions.
Oui, hein, je vais essayer.
Parce que bon, j'ai pas. Il semble que ce titre, ça intrigue. Le point de départ, c'est quand même effectivement qu'on parle beaucoup des mères suffisamment bonnes, des mères trop bonnes, etc., etc. Et puis les pères, plutôt du côté de « il faut qu'ils tiennent la loi », enfin, vous connaissez un peu toutes ces choses-là. Et ce qui me semblait important, c'est de... À un moment, ce qui m'a paru important, c'est de prendre ça sous un autre angle, c'est-à-dire de parler des pères encombrants. Ce mot qui est venu, comme je le raconte dans le premier chapitre, qui n'est pas de moi, mais qui est tout simplement d'un jeune homme que j'ai reçu un moment et dont le père était vraiment trop copain. Les pères encombrants aujourd'hui, avant, on pourrait dire, ils étaient trop autoritaires. Maintenant, ils sont parfois trop copains. Et c'est lui qui a sorti ce mot. Et comme je suis analyste et qu'on travaille, enfin, il me semble, plus avec l'écoute qu'avec la théorie, je pensais que ce qu'il avait dit, c'était tout à fait juste. Puis c'est resté comme ça dans un coin. Et en parlant avec l'éditrice habituelle, on a évoqué ça. Et elle me dit, on a dit, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose là-dessus? Voilà comme les choses viennent. Je vous raconte au fond un peu la cuisine de la fabrication d'un livre. Et en reprenant ce thème de pères encombrants, je me suis tout simplement posé la question comment les pères pouvaient être encombrants. Et d'une certaine façon, ce sont des portraits de pères encombrants que j'ai retrouvés, que j'ai tracés, qui sont bien sûr reconstruits à partir d'une clinique fictionnée pour protéger bien évidemment le secret de la cure et en s'appuyant, parce que j'ai l'habitude de ça aussi, sur la littérature, parfois sur des biographies. Et ces différentes formes de pères encombrants, pour résumer très, très simplement, il y a ceux qui sont beaucoup trop présents et il y a ceux qui sont pas le problème d'être absents, je dirais plutôt ceux qui se défilent. Il y a ceux qui ne peuvent pas vivre avec un enfant ou ceux qui ne peuvent vivre qu'avec leur enfant. Et je pense que ce qui rassemble un peu aussi tout ça, c'est que ce sont des hommes, des personnes qui sont d'abord encombrées de leur paternité. Et je crois qu'il y a quelque chose de la paternité qui ne peut fonctionner que dans le partage, bien entendu, avec l'autre parent. Mais en même temps, qui ne peut fonctionner qu'à partir du moment, enfin c'est ce qui me semble, on n'a pas une idée précise de ce que doit être la paternité. Et du côté de la psychanalyse, j'ai le sentiment qu'à certains moments, on a eu une image de père, c'est-à-dire que le père, c'est le père romain, celui qui soulève son enfant pour le reconnaître, celui qui transmet son nom et la loi, qui interdit l'inceste, qui est le père du côté du symbolique, et une figure qui est à la fois fondée sur la République romaine et aussi sur le 19e siècle. Enfin, c'est le père tel que le décrit Freud et tel que le reprend en partie Lacan, en oubliant complètement ce que les historiens disent, c'est que cette famille nucléaire sur laquelle papa, maman, les enfants, c'est quelque chose de tout à fait daté, C'est-à-dire qu'en Europe, en France, c'est apparu après le déclin de l'Empire romain, c'est apparu au XIe siècle. Et pendant les premiers siècles après Jésus-Christ en France, il y a eu non pas une famille comme celle-là, mais enfin des familles qui se mettaient sur une épaisseur de 3 générations, les gens ne vivaient pas suffisamment vieux, dans lequel chacun portait le nom en général du, enfin on leur donnait le lieu d'où ils étaient, d'où ils dépendaient, avec le prénom propre à chacun. Et ce n'était absolument pas quelque chose qui fonctionnait comme, on pourrait dire, s'est développé après, avec le code Napoléon, par exemple. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour cette présentation un peu floue.
Alors moi, je crois que c'est très, très important, ce démarrage historique, justement, sur comment le pater familias apparaît à un moment donné au 11-12e siècle, mais il n'est pas du tout en place avant, et donc c'est une création à un moment donné, et la réflexion que ça amène sur l'indexation, j'étais en train d'écrire ça, alors je me risque, et on verra la suite, hein, sur l'indexation peu heureuse de certains concepts fort utiles dans la clinique par ailleurs, mais qui ont été indexés sur un état du social à un moment donné qui était extrêmement réducteur. Je vise évidemment la question du nom du père, qui est une fonction, mais qui, à être trop référencé à ce modèle que vous venez d'évoquer, ce modèle papa, maman, enfant, finit par mal vieillir, j'ose le dire, parce qu'au fond, la fonction de séparation que ça remplit gagnerait actuellement, peut-être, à ce qu'on revoit la nomination, n'en déplaise aux uns ou aux autres, plutôt du côté d'une fonction, c'est en essayant de faire passer des choses à des étudiants pour des cours à la fac que ça m'était venu, une fonction pas que deux. Voilà, quand ça tourne à deux, ça va pas, il faut bien un troisième terme. Mais ce troisième terme, ça peut être des tas de cas de figure que le social actuel décline, avec la question des homoparentalités, etc. Et on voit que c'est une position logique, et c'est un opérateur logique, et c'est pas indexable à quelques configurations du social que ce soit, au fond. Alors, moi, je trouve que c'est très, très important que vous donnez d'entrée de jeu, comme ça, un souffle historique pour revoir comment et Freud d'une part et Lacan d'autre part ont fabriqué des concepts avec l'état du social dans lequel ils se trouvaient, hein, et que on peut avoir quand même une perspective là-dessus pour avoir une perspective critique, hein, sur, parce que parmi les pères encombrants que vous avez dont les figures apparaissent, évidemment il y en a deux dont la figure apparaît sans arrêt en filigrane, au moins dans le transfert des analystes sur la théorie, qui sont Freud et Lacan, hein. Alors vous faites ça avec beaucoup de courage, parce que on écrit très peu de choses sur Freud, père encombrant, au moins de sa fille Anna quand même. Et puis vous êtes extrêmement pudique sur Lacan en tant que père encombrant de ses filles, mais enfin ça a pu exister aussi peut-être, et ça a des conséquences, hein, dans les fractures théoriques, dans les fractures d'école, enfin c'est très agissant tout ça, et dans le développement au fond d'une espèce, je commence par la fin, hein, parce que j'avais un peu noté, c'est-à-dire si je devais retenir, pardonnez-moi de dire ça, qu'une phrase de votre livre, c'était terrible, hein, de retenir qu'une phrase d'un livre, mais ça serait à peu près celle-là, c'est déjà pas mal quand même, c'est réducteur. Au psychanalyste, lorsqu'il est consulté de défaire les certitudes, d'ouvrir aux interrogations, à l'existence aussi, de remettre en circulation dans la parole les embarras de la paternité, ce que nul ne peut résoudre, mais que tout père peut vivre. Alors moi, si je rajoutais mon grain de sel, ce serait sortir de l'injonctif et du performatif. Et puis, entre parenthèses, pour les psychanalystes aussi. Parce que vous dites bien combien dans l'écoute, ces modèles comme ça, les mènes de référence de la théorie sont extrêmement empêchants à certains moments pour entendre quoi que ce soit de ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire l'injonctif et le performatif, je crois que c'est deux terribles tyrans qui sont partout, mais dans la tête des analystes autant que dans celle des personnes qui viennent les consulter.
Oui, j'étais en train de repenser parce que c'est effectivement de là dont, alors moi je reprends le début, vous avez parlé de, ce que je raconte, c'est dans le deuxième chapitre en fait, dans le premier chapitre après le prologue, c'est effectivement en me rappelant il y a quelques décennies le moment où je commençais à travailler dans un dispensaire de psychiatrie infantile, un secteur à l'époque ça s'appelait. Et ce moment où, recevant un père qui élevait seul son enfant, pour des tas de raisons, c'était gros comme une maison, je dirais, que c'était un problème d'un père autoritaire et d'un enfant qui n'arrivait pas à castrer le père. Et c'était vraiment... On ne pouvait pas faire mieux comme démonstration... Sauf que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que, c'est ce que je raconte, j'ai pris ça pour expliquer un peu comment on travaille, je dirais. Je me suis rappelé de cette histoire-là. C'est qu'effectivement, il a fallu que je me débarrasse moi-même de cette figure du père autoritaire qui nous avait été transmise par... Comme la seule figure de père autorisé, je dirais, qui nous a été transmise par Freud, et puis en ce qui me concerne aussi par Lacan, enfin, par son enseignement, au moment où moi-même, ce que je dis aussi, puisque quand même, quand on raconte des histoires, même si c'est un peu romancé, on parle un peu de soi, au moment où moi-même, à ce moment-là, je suis devenu père, et où j'ai trouvé d'un ridicule absolu, l'accoucheur me demande de couper le cordon, c'était son boulot de médecin et que c'était pas à moi, que je trouvais que le geste symbolique, en l'occurrence, je trouvais ça, enfin, ça n'avait pas de sens. Enfin, pour moi, c'était pas un geste symbolique, c'était un geste tout court. Et donc, revenant après coup, recevant cet enfant à nouveau, l'écoutant un peu mieux, il se passant quelque chose aussi que je raconte dans le livre, dans son histoire de la... Je touche le micro, attention. Dans son histoire de la réalité. En fait, le problème, c'était pas du tout avec son père. Le problème, c'était avec sa mère, une mère décédée, une mère dont il était toujours, je dirais, hanté, et une femme qui, sans qu'on le sache, faisait que cet enfant était dans l'incapacité de devenir grand. Et non pas un père, à ce moment-là, qui était un père autoritaire incarnant la loi, mais un père qui se débrouillait comme il pouvait pour être le père et la mère en même temps. Et c'est un peu difficile de résumer ça comme ça, parce que quand j'ai plus de facilité, enfin, pas de facilité, mais quand on écrit, on prend 25 fois la phrase pour trouver les choses justes. Mais je dirais, il y a quelque chose qui m'est apparu, après coup, en tout cas en rédigeant ce livre, comme une évidence de ce dont il fallait se débarrasser, non pas jeter à la poubelle, bien évidemment, la théorie, mais prendre garde à ce qu'elle ne nous encombre pas trop. Et à ce moment-là, on ne deviendrait pas un père encombrant, mais on deviendrait, je dirais, un analyste encombré du père ou un analyste encombré d'une image de père. Et avec à ce moment-là, on a du mal, hein, quand il s'agit dans la clinique de régler des choses comme ça. Et c'est un peu ça, ce que vous disiez de la phrase qui est à la fin du livre. C'est effectivement, ça résume un peu ça, hein, c'est-à-dire savoir prendre une distance et se permettre d'écouter.
Alors, l'autre chose que je voulais évoquer, je vous en ai dit un petit mot, c'est ma rencontre lundi matin très tôt à Paris avec un numéro du Figaro dans qui traînait dans le hall de l'immeuble que je quittais pour aller prendre le premier train, qui justement s'intitule « La part des pelles réévaluée » sous la plume de Pascal V. Et je trouvais qu'on trouvait dans cette page un certain nombre de choses fort intéressantes, c'est-à-dire des points de perspective par rapport à votre ouvrage, certains qui sont voulus par elle, et puis un autre qui ne doit rien à sa plume, mais qui doit quelque chose à la composition du Figaro, qui est du côté de l'hyperactivité. Alors je commence par ce qui a été fait exprès, ce qui a été fait exprès par Pascal V, c'est de mettre en tension au fond votre ouvrage, donc il y a tout un cartouche sur votre travail, avec un récit que vient de publier un psychothérapeute familial qui est Éric Trapenier, rassemblé un peu sous un exergue qui est « Beaucoup d'hommes qui consultent refusent de créer des frontières claires entre eux et leurs enfants ». Ça, c'est un peu ça. La deuxième contrepoint, c'est une évocation du livre de Daniel Brun, qui, alors que je n'ai pas lu, je connais bien Daniel, mais je n'ai pas lu celui-ci, mais ça me donne envie d'y aller voir, de voir un peu comment on peut mettre en tension tout ça, qui est titré « L'insidieuse malfaisance des pères ». Bon. Et il y a une phrase de citation que je vous donne parce que je trouve qu'elle est intéressante. Freud, qui est donc de la plume de Daniel Brun, Freud a mis en évidence l'influence du père sur sa descendance et sa contribution au narcissisme, mais il a esquivé, éludé le destin des identifications que suscite un père du fait de son histoire dite et non dite. Cette dimension est aujourd'hui largement négligée. Alors ça, je crois que c'est moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, hein, le poids de l'histoire dite et non dite du père. Hein, ce qui fait, c'est pour ça que je parlais d'injonction ou de performatif comme ça, qui pèse sur lui, malgré les aléas de son histoire et qu'il confronte parfois à une mission impossible. Le tout dans cet article est regroupé avec cette phrase, longtemps focalisée sur le rôle de la mère auprès des enfants, les psychanalystes décryptent désormais les influences paternelles. Et je trouvais que finalement, ça, c'était une très heureuse présentation et que ça ouvrait tout un champ de pensée qui donnait, sans que ce soit fait exprès, une idée sur le fait que sur ce livre sur les hyperactifs dont il est question juste après, on pouvait penser que finalement, si les parents, le père en tête, s'occupaient un peu plus de ce qui les agite, peut-être que les enfants s'agiteraient moins. C'était pas fait exprès, mais je trouve que ça redonne, en évoquant la psychanalyse au fond sur un mode mineur, ça redonne, et du côté de l'humilité, hein, ça redonne tout un souffle très très loin du fait de donner des leçons ou de vouloir, de prétendre mettre son grain de sel sur tout de façon très docte, mais ça redonne un souffle pour penser les impasses, hein, d'enfermement des catégories actuelles du DSM-5, etc. Hein, c'est quand même ça, pour repenser les choses avec la perspective de l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez été sensible à cette... évidemment, vous aviez travaillé avec Pascal V, mais à cette conceptualisation et à cette affaire de l'hyperactivité qui est quand même abordée, ce type que je ne connais pas, sûrement un type très bien, qui cherche sincèrement, mais c'est abordé dans une espèce de mise à plat, quoi. Hein. Mmh. Et on propose aux parents des programmes pour savoir comment gérer leur enfant hyperactif. Enfin, c'est un peu terrible, ça manque de souffle.
Oui, mais ça j'ai découvert en même temps que vous, l'autre morceau dans la page du Figaro, Pascal V, on en avait parlé ensemble, mais l'autre morceau, ça je suis pas du tout con. Mais effectivement, mais on pourrait dire que c'est une façon comme une autre d'être un père encombrant, de trouver un programme pour résoudre le symptôme, entre guillemets, des enfants hyperactifs, toujours avec les mêmes guillemets, qui est une façon de DSMiser quelque chose qui est à entendre, et ce qui, bien entendu, à chaque fois, empêche d'entendre. Je pensais, en vous écoutant en même temps, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, justement, c'est de ne pas porter à aucun moment de diagnostic de quelque forme que ce soit. Je veux dire qu'en vous le disant là, maintenant, je m'aperçois que c'est comme si j'y avais pensé, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit à aucun moment. Et je pense que, par contre, on pourrait tout à fait, à travers les cas ou les œuvres que j'ai citées, remettre ça sous une forme diagnostique. Par exemple, je pense que l'enfant de Jules Verne, dont je parle un moment parce qu'il se trouve que je connais un peu, j'ai travaillé un certain temps sur l'œuvre de Jules Verne, chacun, personne n'est parfait, hein. Serait facilement classé, peut-être pas parmi les hyperactifs, quoique pas loin, en tout cas du côté sans doute d'un enfant dont il faudrait se méfier parce qu'il peut devenir psychopathe. Enfin, c'est tout à fait de cet ordre-là. Jules Verne n'a pas été un bon père parce que c'était un père merveilleux pour des enfants merveilleux qu'il construisait dans ses livres, mais c'était un père complètement absent avec son propre fils, dont on pourrait dire, comme on disait avant, c'était un enfant gâté, hein, et surtout c'était un enfant qu'il a été à certains moments devant lequel il était complètement démuni, puisqu'il a été jusqu'à le faire mettre, on ne va pas dire interné, mais c'était à l'époque, il y avait encore les droits de correction paternelle. Donc il a été à la maîtresse, je ne sais pas si la maîtresse, c'était là où était Genève, c'était maison de correction, jusqu'à ce que le directeur de la maîtresse lui dise qu'il valait mieux qu'il sorte parce que l'enfant allait se trouver encore plus mal. Et il a fini, je trouve que c'est une très très belle histoire, il a fait embarquer son fils par mesure de correction paternelle sur un bateau en partance pour ce qu'on appelait à l'époque les Indes, je ne sais plus si c'est Calcutta ou quoi que ce soit. Enfin bref, il a fait faire à son fils, dans la réalité, les voyages qu'il n'a pas fait, et ce fils lui a écrit une lettre absolument extraordinaire alors qu'il était au bout du monde, en lui disant... parce que son père lui avait donné toute sa littérature à lire pendant le voyage, lui disant « tes romans, je n'ai plus en tête exactement la citation, mais c'est comme le charlatan et c'est comme les battements de grosse caisse de celui qui fait... Il faudrait que je retrouve... si vous lisez le livre, vous le retrouverez. Mais où effectivement, ça nous montre à ce moment-là comment un père pris par autre chose, c'est-à-dire pris par une œuvre, ce qui était le cas de Jules Verne, qui a été pendant longtemps l'écrivain le plus traduit au monde. Pris par une œuvre, pris par la construction, on pourrait dire pris par son monde imaginaire, pris par la quête du succès, parce que c'est ce que souhaitait aussi Jules Verne, peut passer complètement, non pas passer à côté, mais faire de la paternité quelque chose qu'il est incapable de tenir. C'est-à-dire que son fils était celui qui l'empêchait d'être le constructeur ou celui qui fabriquait des héros de papier. C'est-à-dire qu'il y a des tas de légendes familiales, mais une des plus belles qu'on raconte, c'est que le fils jeune, il devait avoir 4-5 ans, criait dans la maison, et Jules Verne dit « qu'est-ce qu'il a ?» Et sa femme lui répond « écoute, c'est l'horloge de la grand-mère, machin, il la veut absolument, il va la casser, et Jules Verne répond qu'on lui donne et qu'il nous laisse tranquille. » Voilà. C'est, bon, je vous dis, c'est à peu près ça, l'histoire rapportée dans la légende familiale. Et c'est comme ça que cet homme a été dans la capacité de tenir une place de père. Et donc c'est une des façons, je dirais, d'être le père encombrant, c'est-à-dire à ce moment-là, d'être encombré d'un enfant qui lui-même ne peut pas reconnaître cet homme comme son père. Hein. Bon, ça a été relativement... Il y a une autre histoire à la fin de la vie de Jules Verne qui est un peu plus compliquée, mais le problème, c'est que c'est des choses qui sont dont les spécialistes, et les, qu'ils soient universitaires ou simplement amoureux de l'homme et de l'œuvre, ne veulent absolument pas entendre parler. C'est que Jules Verne, à la fin de sa vie, a été... il y a eu un attentat au pistolet contre lui. Il a reçu une balle dans le pied qu'on n'a jamais pu lui extraire. Il a boité jusqu'à la fin de ses jours. Et cette balle lui a été tirée par son neveu, son propre neveu. C'est assez difficile. Ce qu'on peut reconstruire, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que c'est très hypothétique, ce qu'on peut quand même reconstruire à partir des bribes que l'on sait, c'est que ce neveu, dans un épisode délirant, a tiré contre son oncle, donc fait cet attentat, précisément au moment où celui-ci, dans sa vieillesse, renouait plus ou moins avec son fils. Tandis que le neveu, à un moment, avait occupé cette place de fils idéal. C'était le fils de son frère. Et il y a quelque chose qui s'est sans doute joué à ce moment-là, où ce garçon, dans un épisode délirant, a tiré ce coup de pistolet. Bon, ça fait partie c'est pas un secret, parce que l'histoire de l'attentat, tout le monde le connaît. Tout au moins, même à l'époque, elle a fait du bruit. Mais c'est quelque chose dont on n'a jamais voulu parler, parce que ça ne pouvait pas être considéré comme faisant partie de la vie de ce grand homme. Hein. Ça ne pouvait être considéré comme quelque chose de complètement extérieur à sa vie. Donc, il était hors de question de pouvoir faire un lien, quel qu'il soit, entre Jules Verne et le coup de feu qu'il a reçu, tiré par son propre neveu. Je vous raconte ça, quand je pars, je suis toujours un peu parti sur autre chose, mais pour vous donner une des figures du père encombrant, celle peut-être auxquelles on ne s'attendait pas tellement, c'est-à-dire celui, je dirais, qui est dans la capacité d'être un père avec un fils dans la réalité, parce qu'il ne peut qu'être un père qui construit des enfants idéaux. Et quand son fils, je vais terminer là avec Jules Verne, mais il faut quand même, ça fait partie de l'histoire ça aussi, quand il envoie son fils au bout du monde sur un bateau par mesure de correction paternelle, le fils ne voulait bien entendu pas partir, hein, et il a été embarqué sur le bateau entre deux gendarmes. C'était à l'époque, ça existait encore. Quand son fils part sur ce bateau, le livre qu'il n'emporte pas, c'est celui que son père est en train d'écrire à ce moment-là. Peut-être quelqu'un d'entre vous connaisse un peu Jules Verne, ça s'appelle Un capitaine de 15 ans. Et Un capitaine de 15 ans, pour autant que je me souvienne, le héros, c'est Dick Sand, c'est exactement le négatif, enfin, on pourrait dire le fils de Jules Verne, Michel, ce serait plutôt le négatif du héros, c'est-à-dire, vous lisez Dick Sand dans le texte de Jules Verne, vous mettez tout au négatif et vous avez la description que fait Jules Verne dans ses lettres. Ce sur quoi je me suis basé pour parler des relations de Jules Verne avec son fils et de ce qu'il disait de son fils, c'est sur sa correspondance qui est éditée, notamment sa correspondance avec son éditeur, avec Jules Hetzel, qui a joué pour lui un peu un rôle de père, mais ça c'est autre chose. C'est une image particulière, on pourrait dire, de père encombrant que j'ai trouvé au détour. Voilà.
Alors, vous décrivez au fond deux types de père encombrant. Il y a ceux qui sont encombrants parce qu'ils sont trop là, mais il y a ceux qui sont pas tellement mieux à être encombrants insidieusement, c'est ceux qui sont pas assez là. Et qui parle, quand vous parlez toute l'œuvre à travers une cure d'ailleurs, de Patrick Modiano, je veux dire, vous parlez de comment Modiano témoigne au fond du fait d'avoir été aux prises avec un père un peu trop flottant, incertain, vis-à-vis duquel on ne pouvait déduire qu'il était là qu'au titre de recueillir des indices et des catalogues d'indices dont il fait son œuvre finalement. Alors moi je trouve que c'est très très... très éclairant comment cette dialectique entre ce que ça produit d'être trop là ou ce que ça peut produire de ne pas être suffisamment fiable, c'est-à-dire une seule et même chose, de pères qui finissent par envahir, au fond, la vie psychique inconsciente de leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Hein, vous donnez des exemples à travers des cures évoquées. Alors moi, je dirais un petit mot là-dessus, sur les cures évoquées, puisque à travers ce texte, on est convié à voyager avec la littérature, Jules Verne, Patrick Modiano, mais tout autant Pagnol ou Barbey d'Aurevilly. Et puis on est convié à se trouver dans une familière infamie. Et moi je trouve ça très intéressant, avec d'autres personnages qui apparaissent comme des cures évoquées fictionnées, des prénoms, je vous en cite quelques-uns que je viens de relever, Tullia, Bérald, Sémélé, Quintilien, vous voyez, sur lesquels on ne va pas comme ça coller la représentation de quelqu'un qu'on aurait rencontré dans nos histoires. Hein. C'est-à-dire que vous dites bien que ces cures, on peut les évoquer, mais en dire au fond pas grand-chose pour préserver une éthique, et qu'il ne faudrait pas qu'on imagine, parce qu'on en a eu une évocation, qu'on en a su quoi que ce soit. Ça aussi, ça préserve une opacité de façon extrêmement heureuse, très rigoureuse sur le plan d'éthique, je trouve. Et ça articule à la fois les choses avec l'évocation du matériel clinique, parce que c'est quand même bien à travers ça qu'on se confronte à un non-savoir en tant qu'analyste. C'est bien un point de confrontation du côté du non-savoir, la clinique. Et puis, ce qu'on peut aller puiser vers ceux qui ont... fictionné d'une certaine façon dans l'écriture littéraire, et je trouve que vous avez une façon très originale, extrêmement intéressante, d'avoir de reproposer une relecture des rapports entre Marius, Cesario et Panis, par exemple, hein, comme une déclinaison des affres de la paternité, hein, très touchante.
Oui, je voudrais reprendre à partir de ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, dans ce que j'écris, c'est un peu toujours comme ça. Il y a une espèce d'entremêlement entre clinique et littérature, mais c'est à la fois entremêlé, mais en même temps, c'est la façon dont plutôt, je veux dire, c'est comme ça que je peux concevoir les choses. Alors, en ce qui concerne la clinique, c'est un peu compliqué, et c'est en même temps très simple. Il s'agit de pouvoir parler de cas sans en parler et sans non plus que ça empêche d'écrire. Et grosso modo, j'ai en présent à l'esprit des histoires de personnes différentes que je peux avoir reçues à un moment ou à un autre de façon pas forcément différente aussi. Et ça permet de reconstruire un personnage qui est, je dirais, à la fois vrai et faux, mais auquel, pour que ça puisse fonctionner, il ne s'agit pas de donner un nom qui marche. C'est pour ça que je cherche des noms de personnages qui, à moi-même, n'évoquent rien et qui, je pense, ne peuvent difficilement évoquer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc, et en même temps, ça résonne aussi du côté de la littérature à chaque fois. Ça dépend. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous parlez de Modiano, par exemple. Alors, Modiano, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Modiano. Il a dit, j'ai lu, ça fait partie du... J'ai fait une expérience modianesque. J'ai lu tous les livres de Modiano. Mais j'ai fait une expérience beaucoup plus amusante, c'est que j'ai décidé de les lire uniquement dans des livres d'occasion. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez un livre d'occasion, il y a toujours une trace. Et je me suis dit que pour rentrer dans Modiano, il fallait faire comme ça. Donc j'ai acheté, alors à Paris c'est chez Gibert, quand je trouvais, je les ai presque tous trouvés, je crois qu'il y en a un ou deux que j'étais obligé d'acheter neuf, c'était désespérant, mais enfin bon. Et c'est merveilleux, parce qu'on se rend compte comment Modiano fonctionne. C'est-à-dire, on ouvre un livre, il y a un nom écrit, il y a un truc coché, il y a trois lignes de barré. Et puis parfois, merveille, j'ai trouvé un ticket de métro où j'ai même trouvé, vous savez, ce qu'on donne dans les hôtels, là, les petits papiers, le bloc-notes d'hôtel. Et on se rend compte à ce moment-là comment Modiano fonctionne? Eh bien, Modiano, il fonctionne comme ça. Il raconte qu'il connaît tous les faits divers depuis 1920. C'est fou, mais c'est lui qui le dit. Hein. C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Et il raconte en même temps, et ce qu'on voit dans tous ses livres, qu'il passe son temps à aller à la recherche, à la quête. Hein. On le voit, il décrit des rues, des places, des passages, des gens qu'il rencontre, plus ou moins flous. Mais quand on connaît un peu, il y a vraiment des endroits, parce que j'ai relu alors en écrivant, il y a vraiment des endroits, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il décrit un café qui est au métro Mabillon, etc. C'est celui-là. Hein. Mais il n'en est plus très sûr. Il y a toujours une part d'incertitude. Et pourquoi il dit ça? Ce qu'il dit en même temps, c'est que Modiano, il a passé sa vie, on pourrait dire, c'est ce qu'il raconte quand même, à essayer de rencontrer son père, un père qui a passé son temps. Effectivement, il était plus qu'absent, je trouve ce que vous disiez tout à fait, il se défilait. Il était absolument insaisissable. C'est pas le marin qui part et qui revient au bout de 3 mois, hein. Celui-là, il est présent. C'est le père que dès qu'on essaye de le rencontrer, il n'est jamais là. On lui pose une question, il répond toujours à côté. On lui demande ce qu'il fait, il dit jamais pourquoi. Il fait des choses, on ne comprend pas pourquoi. Et il introduit constamment une espèce de doute sur sa présence. Hein. Et ce qu'on voit en lisant Modiano, c'est que sa façon qu'il a eue de se construire, c'est un peu ce qu'il raconte, hein, et c'est son œuvre. C'est avec ce père encombrant du côté de cet insaisissable, eh bien lui, il a passé son temps à collationner les faits divers. Il le dit lui-même, il collectionne les annuaires, il collectionne les cartes, etc. Et il y a quelque chose comme ça qui est comme être à la trace de, enfin plutôt suivre la trace de, refabriquer une trace, comme si à chaque fois il s'agissait de retrouver la trace de son père, ce père qu'il n'a jamais pu rencontrer. Alors, bon, on le voit, il y a quelques éléments, quelques romans, ils sont tous plus ou moins autobiographiques, il y a quand même au moins 2 romans autobiographiques, c'est Pédigré, l'autre, j'ai plus le nom en tête, mais c'est comme ça dès le début pour lui. Donc c'est une forme de père encombrant. Quand j'ai pensé à une histoire reconstruite de patients, ça m'est venu tout de suite ce lien. Hein. C'est quelqu'un qui à un moment m'a parlé de Modiano. Et puis en même temps, alors c'est là où c'est quand même curieux, parce que du temps de la cure, je n'avais pas lu Modiano. Après, j'ai lu Modiano et là, je l'ai relu. Et puis, je me suis rendu compte que Modiano, il faisait que parler de moi. C'est-à-dire que les endroits où il emmenait, et je pense que c'est ça qui est extraordinaire chez un écrivain, c'est un écrivain, il passe son temps à parler de nous. Quand on lit quelqu'un et que ça marche, la vraie littérature, c'est qu'on s'y retrouve. Il n'y a pas uniquement de la beauté du texte, mais c'est qu'il parle de nous, il nous parle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je me suis faufiler dans l'œuvre de Modiano en comprenant un peu, d'autant plus à ce moment-là, comment on pouvait aller à la recherche d'un père de cette façon-là.
Alors, en vous écoutant, j'ai d'autres questions qui viennent, évidemment. C'est-à-dire comment opérer, sortir de l'aplat par rapport à la donne de l'histoire telle qu'elle est véhiculée et attrapable par le père et le fils, d'ailleurs. Pour faire surgir quelque chose qui désencombre. Alors, je pense que je vais essayer de préciser ce que je voudrais dire avec une histoire clinique, et puis je voudrais vous inviter à revenir un instant sur une relecture du petit Hans. Le détour, c'est le détour par l'analyste dans les deux cas. Alors l'histoire clinique que j'évoquerai, elle est extrêmement rapide, un petit bonhomme de 5 ans qui est très bien dans une histoire où il n'y a pas de tragédie, pas de cadavre dans les placards, juste un peu embêté par une énurésie qui le gêne pour aller dormir chez les copains, et rien que des gens formidables. Pourquoi il n'y aurait pas des familles qui marchent bien? Ça, ça existe. Et un père très sympathique, un grand-père très alerte. Enfin, ça, ça va bien de partout. Et ce petit garçon, un jour, vient, veut absolument que son père rentre pour me raconter un truc. Alors, il a un père sympathique, ouvert, en bonne santé, qui a un super boulot, et un père qui fait oublier les avions. Et il veut absolument me raconter, devant son père, que son père me raconte que le dimanche matin, en allant au marché avec son petit bonhomme, il s'est pris une prune parce qu'il avait mal garé sa bagnole. Ça, c'est extrêmement important. On retrouve hein, chez le petit Hans des choses de cet ordre-là. Et non seulement ça, mais il raconte quelque chose que son grand-père lui racontait, c'est-à-dire une bêtise qu'avait fait le père avec son frère quand ils étaient petits, et puis une fessée maison que le grand-père leur avait filée. Ça, c'était le deuxième acte. Et pendant que le père parle un peu là-dessus, il fait un dessin et je vois le père blêmir. Et c'est vraiment, à ne pas s'y tromper, c'est une tombe. Hein. Et le père est complètement défait et le petit bonhomme lui dit, bah oui, tu vois, ça serait, toi et moi, on irait au cimetière. Et ça serait un monsieur très grand qui est mort, on irait lui porter des fleurs. Bon. Et on irait lui porter des fleurs. Ça a complètement produit un effet sur lequel, d'ailleurs, ça s'est arrêté. J'ai plus revu ce petit bonhomme, il n'y avait plus besoin. Et puis j'ai appris après que son énurésie avait disparu comme il était arrivé. Hein. Il avait fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il avait pu fictionner quelque chose quand vous disiez. Moi, je trouve que c'est un renversement que vous avez opéré par rapport à la fonction paternelle qui serait d'amener de la castration chez le fils et chez les enfants, etc. Vous dites, vous avez dit à l'instant, tout à l'heure, qu'il s'agissait que l'enfant puisse castrer le père. Hein, il faut quand même que ça soit fictionnable, ça aussi. Alors, parfois, il se trouve que ça l'est par une occurrence de l'histoire. Parfois, j'ai l'impression que avec les histoires telles qu'elles sont véhiculées, qu'elles se transmettent, ou qu'elles sont dites ou pas dites, justement, il y a quelque chose qui reste dans une mise à plat, qui coince. Alors, je me disais que cette mise à plat, ça produit des pères encombrants, in absentia ou par un trop de présence, qu'au fond, la bonne mesure, ça serait le pendant de la good enough mother, c'est-à-dire des good enough father. Mais pas, enfin, bon assez, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas traduire l'anglais dans ces cas-là. Il faut le laisser littéral. Et je repensais au petit Hans, parce que vous avez juste une phrase là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer notre collègue François Daché et son énorme travail depuis 25 ans sur retravailler le petit Hans, les publications de Max Graff, le père, qui ont été gentiment mises de côté, ou pas gentiment d'ailleurs, et les écrits également du petit Hans, parce que contrairement à ce que la majorité des analystes veut bien savoir, moi j'ai un scoop, le petit Hans a grandi. Il n'a pas eu 5 ans toute sa vie, il a grandi. Et il a pas eu une vie triste ou nette, pas du tout. Il a inventé un truc extraordinaire, il a inventé le métier de metteur en scène d'opéra. Il a fait une carrière internationale absolument ébouriffante. Et il se trouve que François Daché a eu l'autorisation de publier des tas de documents par sa fille. Et ça voudrait donc laisser supposer qu'il a même eu des enfants, et pas tout seul. Si ça se trouve, il a même eu des enfants avec une femme. Donc, il s'en est, je veux dire, on en parle très peu dans ce sens-là. Il s'en est plutôt très bien tiré de l'équation de son histoire, ce petit Hans devenu grand. Et toutes les publications du père et du fils, jusqu'à la mort du père, et celles de Herbert jusqu'à sa mort aussi, reprennent. Il y a un filigrane du côté de ce qui s'est passé, ce qui s'est noué au moment de la phobie. Par exemple, Herbert Graff écrit aussi « Se peut-il qu'en racontant ma propre histoire, je puisse en même temps tracer le changement du cours de la pratique opératique moderne ?» Il y a eu un moment d'amnésie, effectivement, jusqu'à ce qu'il trouve sur le bureau de son père le texte de Freud qui parlait de lui, qu'il a décidé à retourner voir Freud, et ensuite, il articule ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dialectisé dans sa trajectoire, où il fait toujours référence à ça, au fait que cet épisode qu'il a développé. Alors en relisant, en réécoutant ce que vous disiez, en vous lisant, je repensais au fait qu'au fond, le père de Hans dans lequel les pères que nous sommes peuvent se retrouver. Hein. Un père qui fréquente des séminaires, qui a une femme qui a fait une analyse. Enfin, je veux dire, il y a certains d'entre nous, ça nous donne quand même des petits, un peu de quoi penser. Hein. Ça nous tend un miroir. Et qui a un petit bonhomme qui développe une phobie, ça peut arriver à plein de gens. Ce père-là, au fond, il effectue, via le transfert sur Freud, un point de perspective. Parce que dans son histoire à lui, ce qu'il évoque assez tardivement, il dit qu'il avait plutôt un peu tape dure, quoi, un truc un peu écrasant. Et au fond, votre travail a m'invité à revoir les choses en disant qu'il y avait eu ce point de perspective qui s'est ouvert et qui a évité, parce qu'il y a eu ce dialogue avec ce transfert à l'analyse, ce transfert sur Freud, etc., du côté du père, hein, qui n'avait pas échappé au fils, puisqu'il lui disait, mais écris-le pour le dire au professeur. Il avait bien pigé qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, dans l'affaire. Et ça évite un écrasement, et ça donne un petit bonhomme qui, certes, a développé un symptôme phobique à un moment donné, mais qui en a fait en même temps un formidable moteur pour inventer des choses par rapport à sa trajectoire, qui tiennent compte de ce que le père lui a transmis. Hein. Max Graff était musicologue, mais il n'était pas du tout metteur en scène d'opéra. Hein. Et ce garçon a quand même magnifiquement réussi sa trajectoire de vie. Et le dialogue avec le père est un dialogue extrêmement touchant, jusqu'à la mort du père, hein, qui est sollicité régulièrement pour qu'on lui fasse parler de « mais alors, vous êtes le père du petit Hans » et là, et qui veut bien dire un certain nombre de choses, et puis sur ce qui a été l'enfance, mais qui dit qu'en ce qui concerne l'homme qui est devenu son fils, ça, lui, il n'a rien à dire du tout, et que si le type veut savoir quelque chose, il n'a qu'à aller lui demander. Hein. Bon. Mais vous voyez, il y a une très belle histoire entre qui circule dans les milieux analytiques. Jean-François Daché travaille ça depuis 25 ans. Il a veillé à refaire publier la thèse de Hans, etc. Enfin, vraiment, un énorme travail de recherche autour de ça pour effectivement faire ressortir cette espèce d'oxygénation qu'a amené entre le père et le fils l'ouverture sur une autre écoute, hein. Mais quelque chose qui se serait pas fait s'il n'y avait pas eu Freud pour tenir ce point là hein, voilà ce que je voulais un peu évoquer.
J'avais envie de dire il y a même des analyses qui se terminent bien, hein. C'est-à-dire que Hans effectivement c'est devenu quelqu'un enfin Herbert Graff c'est devenu quelqu'un qui s'est plutôt pas mal porté dans sa vie.
Bah oui.
Hein, il disait, quand il a revu Freud, qu'il ne se souvenait pas du tout. Après...
Quand il l'a revu à 20 ans.
Oui.
Mais
après, il a repris.
Mais toute sa vie, il se souvient bien après. Une fois qu'il a levé cette amnésie-là, non seulement il se souvient, mais il fait référence sans arrêt à ce que ça lui aura apporté, ce qu'il a découvert à partir de ce point-là. Finalement, c'est un peu comme le rapport qu'on a nous-mêmes avec ce qu'auront été nos analyses. Hein. Ça reste là en filigrane tout le temps. Ça a ouvert quelque chose qu'on referme, enfin, dont il est heureux que ça ne se referme pas.
Je me disais en même temps que je ne pense pas qu'il y ait d'analyste qui puisse appeler leur enfant Hans maintenant. Ça fait partie aussi des choses, effectivement, qui feraient que ça se referme. Je pense que la question, parce que c'est un peu ça que vous posiez au début comme question, c'est qu'est-ce qui fait que à certains moments dans la rencontre avec un enfant ou parfois avec un adulte, je ne reçois pas que des enfants, il y a quelque chose qui permet que ce qu'on appelle ou que ce que j'appelle le père encombrant prenne sa place. Il me semble que c'est à chaque fois quand il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la surprise et en même temps, alors je ne reprendrai pas ce terme de castrer le père parce que ce n'est pas exactement ça, mais en même temps quelque chose qui a à voir avec ce que justement il se découvre que ce père était encombré de sa paternité dans une stature où ce n'était plus un homme, mais c'était un père et un père encombrant. Alors, je pense que ça serait plus simple si je vous racontais quelque chose que je raconte dans le livre. C'est une histoire assez courte, après que je relis avec une très très belle histoire, un très beau roman de Barbet d'Aurevilly qui s'appelle « Une histoire sans nom ». Pour schématiser, c'est quelqu'un, je reconstruis ça comme ça, c'est une femme dont le père est mort et dont la mère, sans que personne s'en rende compte vraiment, enfin je veux dire c'est ça, comme ça que ça se passe, sans le savoir elle-même non plus sans doute la mère, dont la mère a transformé sa fille, cette fille-là, en quelque chose qu'on pourrait appeler l'idole du père. C'est-à-dire, entendons-nous bien, elle ne l'a pas identifié au père mort, cet enfant. Elle ne lui a pas dit non plus... Enfin, c'est pas quelque chose qui fonctionne du côté de le père mort, c'est l'être idéal, etc. Non, c'est celui que l'on doit, en quelque sorte inconsciemment, enfin, que l'on ne doit pas cesser d'honorer. Hein. Et cette femme est arrivée dans une espèce de position assez ferme, construite, fabriquée, tirée à quatre épingles, je dirais. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement, chacun a ses défauts, moi, je ne prends pas tellement garde à la façon dont les gens dont les personnes que je reçois sont habillées. Ce n'est pas quelque chose qui frappe. Vous savez, il y a des gens Mais elle, je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'était toujours la même chose. Ce n'était pas toujours la même chose, mais c'était toujours les mêmes ensembles. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, genre un cardigan avec une... Enfin, vous savez, des choses... Voilà, c'était toujours les mêmes ensembles qui revenaient assez régulièrement. Je n'ai pas fait véritablement de lien, savoir si c'était le vendredi, telle chose. Enfin bref, c'était quand même avec tel gilet ou telle veste, elle portait toujours la même jupe. Et alors, ce qui s'est passé à un moment, c'est tout à fait étrange parce que je ne m'attendais pas à ça. Elle me raconte, c'était des gens d'un pays très catholique, c'était pas d'origine française, c'était un pays très catholique. Et c'est une famille assez respectable de ce pays. Et ils avaient en charge d'honorer la Vierge de l'Église. C'est-à-dire que c'était cette famille-là qui devait, le jour des processions, etc., porter la Vierge, c'était une vieille tradition, etc., et surtout l'habiller. Et je ne sais pas pourquoi... Je raconte ça, et je ne pourrais même pas dire exactement comment ça s'est passé, mais il y a quelque chose où, à un moment, ça fait le lien, mais ça fait le lien aussi bien pour elle que pour moi, et en même temps, eh bien, cette femme s'habillait comme, dans sa famille, on habillait cette statue de la Vierge qu'on promenait les jours de procession. Hein? Et à ce moment-là, le simple fait que ça soit évoqué comme ça, c'est quelque chose, c'est une chose qui était relativement bref, même si je reconstruis tout ça, bref. Ben voilà. Je veux dire, c'est pas dire, ah ben c'est bien sûr, tout est fini, pas du tout. Hein. Mais il y a quelque chose qui a tourné, c'est-à-dire que elle s'est, d'une certaine façon, appropriée ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire d'être comme une idole. Hein. Et comme elle se l'est appropriée, elle a pu le mettre de côté. Hein. C'est dans les deux mouvements en même temps. Et je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose de l'ordre de l'interprétation, ce n'est pas non plus quelque chose de l'ordre de... c'est comme ça que ça se passe, on explique. Non, c'est quelque chose... À un moment, ça sort, je dirais, à un moment de rencontre. Voilà. Et pour expliquer un peu plus, parce que c'est difficile de raconter un cas clinique, je reprends l'histoire de Barbet d'Aurevilly, d'une femme sans... une histoire sans nom, où c'est à peu près la même histoire. C'est une jeune fille qui est, pour sa mère, l'idole, transformée en idole de son père. Et c'est quelque chose de tout à fait... enfin, ça va un peu... Là, ça fait un peu plus que la littérature. La jeune héroïne d'une histoire sans nom, ça s'appelle l'asthénie de Ferjol. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'asthénie de Ferjol, qui a été, j'ai perdu le nom de l'hématologue célèbre, bref, le syndrome de l'asthénie de Fajol, c'est celui de ces asthénies, parce que Barbet n'a pas choisi le prénom au hasard, hein. C'est celui de ces asthénies qui sont absolument incompréhensibles jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il s'agit de personnes en général du monde médical, médecins, infirmières, etc., et en général aussi des femmes, qui se ponctionnent du sang. Qui se ponctionnent du sang, et c'est une pathologie, enfin pour dire ça comme ça, comme de type Munchausen, c'est-à-dire, hein, voilà, mais particulière, jusqu'à éventuellement la mort. Et c'est l'histoire de l'asthénie Fajol dans le roman. Cette jeune fille meurt comme ça, en s'enfonçant des épingles dans la région du cœur. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Lisez le roman, ça vaut vraiment la peine. Et il y a quelque chose qui est du même ordre, c'est-à-dire c'est la façon... C'est Jean Bernard, hématologue, professeur Jean Bernard. C'est un nom célèbre. C'est-à-dire que là où vous voyez comment, si je vous parle de ça, c'est aussi pour vous montrer comment on peut faire le lien entre de la clinique, entre la littérature, et ça revient à la clinique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Jean Bernard ? Eh bien, un syndrome qui était impensable pour un médecin. Parce que ce qui est impensable quand même pour quelqu'un qui soigne, c'est que le patient, non seulement... mettent au défi la médecine, ça c'est un peu l'hystérie, on connaît, hein. Mais se rendre malade lui-même et le trompe comme ça, hein. Et il y a quelque chose du côté de l'impensable de la tromperie qui n'a pu prendre forme, c'est pas encore rentré dans le DSM, peut-être ça y est, j'en sais rien, qui a pu prendre forme, en tout cas pour Jean Bernard, qu'en passant par la littérature, c'est-à-dire que c'est effectivement Barbet d'Aurevilly qui permet de comprendre comment une jeune fille peut être amenée à se tuer de cette façon-là. C'est-à-dire comment elle fait pour se débarrasser de sa place d'idole. C'est comme ça qu'elle a fait. Alors, je dis ça dans la suite du premier cas, où je dirais, on pourrait dire que le cas dont je raconte, c'est au fond une belle fin, parce que cette femme, elle a pu faire son chemin sans avoir à se saigner. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il se trouve que, comme j'avais travaillé un peu, comme j'ai fait sur cette question du syndrome de l'asthénie de Fajol, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes. Et effectivement, c'est bien de ce côté-là que ça se passe. C'est-à-dire une position, me semble-t-il, hein, c'est tout à fait hypothétique quand même, où quelqu'un... est dans la capacité de se poser comme sujet de lui-même, et se saigner, c'est quand même enlever sa force vitale, c'est-à-dire se transformer en mort, mais pas uniquement, en statue. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a d'autres façons de se tuer, je pourrais dire. Bon, mais ça, c'est pas là-dedans ce que je vous dis.
Alors, je voudrais juste évoquer quelque chose. C'est un autre détour par la littérature qui, au bout de plus de 20 ans de pratique, nous a éclairé. Nous, c'est une équipe de collègues avec qui on a créé, il y a 26 ans maintenant à Bordeaux, un lieu d'accueil enfants-parents dédié à des situations de séparation ou de divorce conflictuel. Ce détour par la littérature, ça a été le détour par la relecture de Boris Vian et de l'Arrache-cœur. En effet, dans un chapitre du bouquin qu'on avait publié là-dessus, un peu le syndrome de Clémentine. Vous vous rappelez Clémentine dans le roman, dont l'idéal de conception des enfants, c'est que les enfants, ça soit comme le pied des Chinoises, qu'on puisse les empêcher de grandir. Et avec le bannissement du père, hein, qui passe de la chambre au canapé du salon, puis à la pièce d'à côté, puis au garage, puis à la pantie qui était à côté du garage, et le jour où la pantie brûle, dehors. Il n'y a plus de place. Et dans notre pratique à nous, on a des situations où le bannissement porte dans le discours de la mère sur la place du père, mais on a aussi des situations où le bénissement porte dans le discours du père sur la personne de la mère et sur la disqualification de cette mère, avec des, au fond, le syndrome de Clémentin, ça n'a rien envié au syndrome de Clémentine, hein, c'est tout à fait aussi redoutable, avec souvent presque des mises en acte d'un désir de mort qui sont allées quand même des fois jusqu'à couper les câbles des freins de la voiture de la mère sur le parking, vous voyez. Bon, c'est pas, ça ne fait pas dans la dentelle. Et ce qui nous a fait, quand on a essayé de théoriser là-dessus, c'est pour ça que je l'évoque là, c'est en écho avec le titre du livre de Patrick Avran, c'est on avait pensé à la catégorie de père encombré. C'est-à-dire qu'un père avec enfant sans mère, c'est un père encombré. Il y a un truc qui... C'est-à-dire qu'il y a des mères avec enfant... ayant des velléités de se débarrasser du père, où ça a l'air de tourner rond, mais trop rond. Mais de l'autre côté, des pères avec enfants ayant exclu la mère, ça tourne sur trois pattes, comme on disait chez les garagistes autrefois. Hein. Y a un cylindre qui ne marche pas, et ça boite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des pères encombrés, qui n'arrivent pas, qui essaient de colmater des choses, qui sont embarrassés de quelque chose qui n'est pas symétrique. Alors voilà, j'évoquais ça comme ça, parce que encombrant, enfin, ça me paraissait intéressant sur la clinique.
Et... Juste un mot avant, ce que je dis effectivement, c'est qu'un père encombrant, c'est un père encombré de sa paternité. Bien.
Bon, merci beaucoup.
Aux uns et aux autres. Merci à vous.